Je voudrais vous raconter ce que nous avons vécu à Pâques, il y a de cela 3 ans. C'était comme ça. On a passé le dimanche après-midi à cacher des œufs pour nos enfants dans le jardin. Les enfants étaient terriblement excités, terriblement contents de ce moment-là. Ils étaient tellement contents qu'on a caché les œufs une fois et puis ils sont sortis pour les chasser, pour les trouver. Et puis après, quand ils les ont eu trouvés, ils ont dit « Encore, encore !» Et donc, eh bien, ils sont restés dans la maison et nous, on est ressortis dans le jardin pour recacher les œufs à nouveau. Et on a fait ça, en fait, quasiment toute l'après-midi. Mais il y a eu comme un petit problème, comme un psychodrame à un moment. On a retrouvé un papier vide. Visiblement, il y a un passant qui était entré dans notre jardin. Il avait mangé l'œuf et il avait laissé le papier. Et nos enfants, ils nous en parlent encore, ils en ont pleuré de cet événement. Et puis, quand on a fait les comptes, à la fin de la journée, ils ont pleuré encore plus, parce qu'en fait, il nous manquait encore plus d'œufs. On en avait perdu tout au long de la journée, à force de les cacher à différents endroits, on ne savait plus du tout où on les avait mis. Par exemple, quelques jours après, en tondant la pelouse, j'en ai retrouvé, il y en a un qui a été démembré derrière la tondeuse. L'air devait être un peu trop haute à Pâques à ce moment-là, et voilà. Tout ça pour vous dire que cette joie initiale de Pâques, elle avait été comme un peu gâchée par la disparition, le vol, la perte de certains œufs. Joie initiale teintée de tristesse au final. Alors c'est bien de joie et de tristesse dont nous allons parler effectivement maintenant. Alors peut-être que cette histoire d'œufs en chocolat avec mes enfants vous fait doucement rire, mais je voudrais quand même nous interpeller, nous les adultes. Je voudrais nous demander si notre vie n'est pas un peu similaire. Est-ce que nous ne carburons pas, nous non plus, au plaisir dans notre vie? Carpe diem, vous le connaissez? Carpe diem. Profite de la vie. Nourriture, fêtes, cinéma, spectacle, télé, sport, j'en passe. C'est ce que nous faisons tous. Mais la vie, alors j'en ai amené un. La vie, est-ce qu'elle ressemble pas un peu à ce lapin en chocolat? Alors je voudrais vous expliquer pourquoi. Est-ce que la vie ressemblerait pas un peu comme ce lapin en chocolat? Bien appétissant. On le veut et on le désire. Je vous garantis qu'il sent bon. Hein, voilà. Mais au final, est-ce que ce lapin en chocolat, il n'est pas... Il est vide. Il est creux. Est-ce que, malgré tout ce que l'on possède, malgré tout ce que l'on fait, malgré tous les bons moments qu'on passe, est-ce que ça comble tout ça, complètement notre existence? Ou est-ce qu'au final, on ne se retrouve pas avec un lapin creux, nous aussi, dans notre vie? Est-ce que parfois, on se rend compte que, eh bien, notre vie est vide et n'a pas de sens? Et est-ce que, je ne sais pas si ça vous arrive de rêver à un lapin qui serait plein? Mais est-ce que ce lapin existe vraiment? Est-ce qu'il existe, ce lapin, plein? Est-ce qu'avec la vieillesse, est-ce qu'avec la maladie, est-ce qu'avec la mort en ligne de mire pour chacun d'entre nous, est-ce qu'on n'est pas condamné à voir notre joie se transformer en peine et en tristesse avec les années? C'est bien de joie et de tristesse dont on va parler. Y a-t-il un sens à notre vie qui ne va pas être détruit par la mort qui nous attend tous, au final? Toutes les joies de l'existence sont-elles condamnées à se transformer en tristesse avec le temps? J'aimerais vous encourager. Il y a un message d'espérance de la part de Christ pour chacun d'entre nous. Il y a un homme qui a changé la face du monde, c'était il y a 2000 ans, c'était ce fameux Jésus-Christ. Il est
le seul à pouvoir transformer notre tristesse en joie. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ce qui s'est joué. Et je vais inviter Jacqueline à venir lire pour nous le texte sur lequel portera la méditation.
Je lis dans Jean 16, les versets 16 à 24. « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. » Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par « encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père ?» Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez. Et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, et votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi. Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez. Et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.
Merci Jacqueline. En début de semaine, je réfléchissais à tous les passages dans la Bible qui nous parlent de la résurrection de Jésus, et je me demandais lequel j'allais bien pouvoir méditer ce matin avec vous. Et puis, lundi soir, on allait dans la cuisine avec mon épouse pour cuisiner. On allume la radio, 19h30, et qu'est-ce qu'on entend ? Notre-Dame en feu. Quelques minutes plus tard, je crois 8h moins le quart ou un truc dans ce genre, la flèche s'écroule, tombe. Et puis, c'est la consternation partout. À la télé, des gens en pleurs, des Parisiens en pleurs, des catholiques en pleurs, des étrangers, visiteurs de Paris en pleurs, même des non-croyants en pleurs. Voilà pourquoi j'ai choisi ce passage qui nous parle de la résurrection de Jésus, à cause de ce verset 22 en particulier. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Je prie pour que ces paroles de Jésus trouvent écho en vous. Je voudrais tellement que vous écoutiez ces paroles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour la parole que Dieu nous adresse ce matin. Notre joie, personne ne pourra nous l'enlever. Il est question d'une joie définitive. Et il nous faut étudier ce passage pour comprendre de quelle joie définitive il est question. Le récit que nous venons de lire, il commence la veille de la mort de Jésus. Jésus est en train de parler avec ses disciples et il essaie de leur faire comprendre ce qu'il va arriver dans les jours à venir. Et il commence comme ça en disant, c'est un temps de tristesse qui va venir pour vous. Il parle à ses disciples et il leur dit ça. C'est vrai que Jésus, il va, dès le lendemain, être arrêté, être jugé, condamné et crucifié. L'univers des disciples va s'effondrer en quelques heures. Alors que ça fait que 3 ans qu'ils parcourent la Galilée et la Judée avec leur maître. Mais là, En quelques heures, tout va s'effondrer pour eux. Les disciples, ils ont du mal à saisir tout ça. Jésus, il a beau leur avoir annoncé sa mort à plusieurs reprises, ils ont du mal à capter ce qui va se passer. Il se trouve que Jésus va donner sa vie volontairement pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes. Il va prendre sur lui la punition que nous méritons. Mais cela, les disciples le comprendront plus tard. Pour le moment, les disciples, ils ne comprennent pas. On les voit s'interroger au verset 16, 17, 18, 19, c'est la même répétition. Ils se disent, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi la suite? Dans peu de temps, vous me reverrez. C'est vrai que ce sont des paroles énigmatiques. Encore plus énigmatique quand Jésus dit « Votre tristesse va se changer en joie, une joie que personne ne pourra vous enlever. » Comment pouvaient-ils comprendre cela? Ben, ils n'ont pas pu. Jésus faisait référence à sa mort. C'est bien la mort de Jésus sur la croix qui est visée ici. « Vous ne me verrez plus bientôt, » dit-il. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. « Vous serez accablés de tristesse, » verset 20. Et ensuite, il fait référence à sa résurrection. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Et là, votre tristesse se changera en joie, verset 20. Et c'est vrai que 3 jours après sa mort, Jésus reviendra à la vie et ses disciples seront alors dans une grande joie. Mais pour le moment, c'est la tristesse que Jésus leur annonce. La tristesse de la séparation et de la mort. Au verset 21, Jésus compare ce qu'il va lui arriver avec les douleurs de l'enfantement. Pour un peu de temps, comme pour un accouchement, il y a une grande douleur, très grande douleur. Mais ensuite, c'est vrai, quand le bébé est né, la douleur s'arrête et reste alors la joie. Mais pour le moment, ce qui est annoncé, c'est les douleurs de l'enfantement à ses disciples qui sont là autour de Jésus et qui vont le perdre le lendemain. Mais Jésus leur annonce déjà que ce temps de tristesse prendra fin. Parce que dans peu de temps, ils le reverront. Et là, la joie qu'ils auront, personne ne pourra la leur enlever. C'est l'objet de notre seconde partie. Ensuite, une joie sans fin. Cette promesse, ça m'a interpellé. La promesse d'une joie sans fin, d'une joie que personne ni rien ne peut enlever. Quelle est cette joie sans fin? Eh bien, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Jésus qui offre sa vie pour nous sauver, mais Jésus qui ne méritait pas de mourir, il n'avait jamais rien fait de mal. Il était même le seul homme que la terre ait jamais porté qui ne méritait pas de mourir. Et pourtant, il offre sa vie volontairement. Il meurt à notre place pour payer le prix de nos fautes. Ben, il n'avait jamais rien fait de mal. La mort n'a pas pu le garder. Dieu, par son esprit, lui a rendu la vie 3 jours après. Et ce n'est pas un hasard si Jésus compare cette joie avec celle d'une femme qui vient d'accoucher. Grande douleur, mais joie énorme après, quand l'enfant est né. De la même façon, quelle joie quand Jésus revient à la vie. D'autant plus pour nous, parce que la résurrection de Jésus annonce la nôtre à la fin des temps. Précédemment, quelques chapitres avant, dans le même évangile de Jean, Jésus avait dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Jésus annonce qu'à la fin des temps, celles et ceux qui ont mis leur confiance en lui reviendront à la vie et vivront éternellement dans de nouveaux corps glorieux. La mort, la souffrance, la maladie, tout ça, ça sera balayé. La mort, qui est notre dernier ennemi, sera vaincue définitivement. Alors oui, c'est un grand sujet de joie pour nous également, cette victoire sur la mort qui annonce la nôtre. Versets 22 à 24, les paroles de Jésus annoncent le contenu de notre joie. Je vous les relis. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'aviez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Parole peut-être encore un peu énigmatique de Jésus, mais en fait, à la lumière de sa résurrection, on comprend. Avant la mort et la résurrection de Jésus, les hommes et les femmes ne pouvaient rien demander à Dieu. On ne pouvait rien demander à Dieu parce que la relation avec Dieu était brisée. L'humanité était privée de Dieu. Elle encourait sa colère. Et c'est Jésus qui a subi à notre place cette colère, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Lorsque Jésus revient à la vie, nous comprenons que son sacrifice à notre place a été accepté. Et donc, l'accès à Dieu, le Père, est de nouveau ouvert. Commence une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle relation avec Dieu comme Père. Voilà pourquoi Jésus dit que ses disciples ne l'interrogeront plus, lui, Jésus. Ils n'auront plus besoin d'interroger Jésus parce qu'ils pourront s'adresser au Père, à Dieu, le Père, directement. Et dans cette nouvelle relation avec Dieu comme Père, ils pourront lui demander des choses. La vie éternelle. Le pardon de leurs fautes. Des nouveaux corps de résurrection. Tout ça, on peut le demander à Dieu le Père. Et ça nous est accordé. Et notre joie sera complète, nous dit Jésus. Mais après quoi est-ce qu'on court dans la vie? Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut demander à Dieu? La vie éternelle, le pardon de nos fautes, de nouveaux corps de résurrection? Est-ce que c'est ça que l'on demande? Ou est-ce que plutôt on court après des biens matériels, du concret? Est-ce qu'on court après la richesse? Est-ce qu'on court après le pouvoir, après la sexualité, après la fête? Je ne sais pas. Mais toutes ces choses, elles sont bien fragiles. Toutes ces choses, elles vont être anéanties par notre vieillissement, par notre mort certaine à venir. Avec l'âge, les sens s'altèrent et les forces nous lâchent. Dans un des livres de la Bible, qui s'appelle l'Ecclésiaste, l'auteur disait « Souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends plus aucun plaisir. » À la fin, toutes les joies nous seront enlevées. » Ça me fait penser un peu à toutes ces stars qui vivent à Hollywood et qui ont tout pour être heureuses, qui connaissent la gloire, qui connaissent le succès énorme, qui ont vécu des choses prodigieuses dans leur vie. Et pourtant, eh bien, les statistiques sont formelles, elles nous disent que ces gens-là ne sont pas plus heureux que nous. Et que c'est même pire, en fait. Il y a un taux de suicide, un taux de dépression et d'alcoolisme qui est plus élevé que la moyenne dans ces franges de la population américaine. J'avais entendu le témoignage d'une tenniswoman dont j'ai oublié le nom, mais j'avais entendu ça à la radio. Elle a expliqué qu'elle avait un but dans la vie, c'était gagner un tournoi du Grand Chelem, et elle avait passé toute sa vie à courir après ça, taper dans les balles, progresser en tennis. Et le jour même où elle a gagné son premier US Open, eh ben en fait, c'était le jour de malheur pour elle. Elle venait d'atteindre son rêve, elle aurait dû être la fille la plus heureuse du monde, et le soir même, elle tombait dans la drogue. Pourquoi ? Parce qu'elle venait de se rendre compte que pendant toute sa vie, elle avait couru après du vide. Le fait de gagner l'US Open ne l'avait pas rendue heureuse, alors qu'elle avait construit sa vie là-dessus. Je ne sais pas après quoi vous courez, je ne sais pas quels sont vos désirs, mais je dirais que si votre désir c'est ça, pauvre de nous. Si le lapin en chocolat est notre seul espoir, alors ben, mangeons-le, dévorons-le même. Je vais vous le laisser pour là, juste là après. Profitons-en à fond et jusqu'à la dernière miette. Parce que demain, nous mourrons. Mais si Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y a 2000 ans, et nous le croyons, eh bien alors, on est autorisé à rêver bien plus grand que ce lapin au chocolat. On est autorisé à rêver qu'un jour on sera auprès de lui, dans une communion parfaite. On est autorisé à rêver que Dieu nous aime et qu'il nous accueillera
et qu'il nous prévoit déjà un héritage, la vie éternelle auprès de lui. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. On partagera la gloire de Jésus dans de nouveaux corps parfaits. Et tout cela, parce que nous le mériterions ? Non. Tout cela parce que Jésus-Christ a payé à notre place sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Tout cela parce qu'il est ressuscité d'entre les morts pour nous offrir cette espérance nouvelle, une vie transformée, une joie inaltérable. En dehors de Christ, j'ai bien peur que toutes les joies nous soient enlevées. Et peut-être que votre cœur ne se réjouit pas avec Christ. Dans ce cas-là, eh bien, ce texte est une invitation pour vous à aimer Jésus. Parce que si vous n'aimez pas Jésus, eh bien, vos joies vous seront enlevées progressivement. Et Jésus est bien notre seule joie permanente. Quand notre vie s'effondre, que ce soit par la vieillesse, par le chômage, par les divorces, la maladie, la mort, tant de difficultés de notre existence, eh bien, le seul point stable, le seul point d'ancrage qui tient le choc, c'est Jésus. Jésus, il est le même. Il n'a pas changé depuis 2000 ans. Il est revenu à la vie 3 jours après sa mort. Et depuis, il est Seigneur. Et il règne. Et il n'a pas changé. Notre joie en Christ est permanente. Elle est acquise. Pâques, c'est vrai que c'est un événement historique qui a changé la face de l'humanité. Mais c'est aussi un événement qui change notre vie personnelle, notre intimité. Le fait de se savoir en paix et en joie avec Dieu, notre Créateur, grâce à Jésus. Dieu qui veut prendre soin de nos blessures, Dieu qui veut nous restaurer. Quelques mots de conclusion. Si nous pensons que Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors eh bien, cet après-midi, faites comme mes enfants, ruez-vous sur les œufs en chocolat. Ils seront notre seule joie du jour. Et si vous en égarez dans le jardin, faites comme mes enfants. Pleurez et roulez-vous par terre en hurlant. Parce que vous auriez pu en manger plus, mais vous en avez paumé un. Et c'est tant pis. Mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons. Mais si nous pensons que Christ est ressuscité, comme l'ont constaté des centaines de témoins, si nous pensons qu'il est vivant aujourd'hui, alors célébrons cette Pâque de façon complètement différente. Fêtons cette joie inaltérable qui peut être la nôtre. Car un jour, nous serons auprès de lui. Et nous sommes heureux ce matin doublement parce que nous avons accueilli Martine et Christophe. Et Martine et Christophe partagent notre joie ce matin. Ils ont reconnu Jésus comme leur sauveur. Ils ont reconnu qu'ils avaient besoin de lui pour être en paix avec Dieu. Et Jésus leur a offert le salut. Si tu veux connaître cette joie inaltérable, tourne-toi vers Jésus. Il t'aime. Il a donné sa vie pour toi et il veut la changer, ta vie. Est-ce que vous vous souvenez de la cérémonie d'ouverture des JO, des Jeux Olympiques à Barcelone en 1992 ? Est-ce que certains d'entre vous étaient devant leur téléviseur à ce moment-là ? Il y a eu un passage, quelque chose qui s'est passé, qui m'a fait penser à cette joie de Jésus. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père voulait nous réconcilier avec lui. Et il avait mis en place ce plan qui devait arriver à Jésus il y a 2000 ans. Et donc il y avait cette joie progressive qui augmentait. Et quelle joie quand on comprend que Jésus est venu pour nous sauver. Et puis tout d'un coup, cette joie s'éteint, il est mort. Et tout le monde est démuni. Et 3 jours après, il revient à la vie pour cette joie inaltérable, cette joie, cet embryon de joie qu'on avait cru éteint au moment de la mort de Jésus, cette joie se réenflamme au moment où Jésus ressuscite des morts 3 jours après. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que il y a quelque chose de cet ordre-là lors de la cérémonie d'ouverture des JO à Barcelone. À un moment, l'obscurité s'est faite dans le stade et il y a un point lumineux qui a commencé à apparaître. C'était le porteur de la flamme, un coureur qui arrivait avec la torche. Il courait. Il s'est approché. Et là, il y a un archer qui était là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. L'archer, il enflamme sa flèche. Et il vise la grande vasque qui doit brûler pendant tous les JO. Et il arme et il tire. Et là, pendant quelques secondes, qui semblent être une éternité, il ne se passe rien. Au point que les commentateurs disent « Mais c'est la catastrophe, il a raté la vasque !» La joie semble éteinte à ce moment-là. Et quelques instants après, pouf, il n'avait pas raté la cible et la vasque s'est enflammée. Pour toute la durée des JO, ça a été la joie des Jeux Olympiques. Ben, c'est un peu pareil avec Jésus. Cette joie quand il est arrivé, cette joie qu'on a cru s'éteindre avec sa mort, eh bien, elle se réembrase pour l'éternité avec sa résurrection. Cette joie ne s'éteindra plus jamais. Elle débouchera sur notre résurrection à nous, à la fin des temps, et notre héritage auprès de Dieu. Alors oui, nous avons des raisons d'être dans la joie ce matin. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu as accepté le sacrifice de Jésus à notre place sur la croix. Nous le savons parce que tu lui as rendu la vie. Il ne méritait pas de mourir. Et il est aujourd'hui vivant et il règne sur l'univers. Merci parce que nous sommes en paix aujourd'hui avec toi. Nos fautes sont pardonnées. Tu nous as acquittés, non pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus a payé le prix de nos fautes. Jésus est vivant pour toujours. Il a vaincu la mort. Merci pour l'espoir que cela suscite en nous qui croyons en Jésus. Nous sommes nous aussi passés de la mort à la vie. Nous sommes en paix avec toi et nous pouvons t'appeler Père. Merci parce qu'à la fin des temps, tu nous redonneras un corps parfait. La mort sera définitivement vaincue. Merci pour cette joie que tu nous donnes par la mort de Jésus à notre place et par sa résurrection 3 jours après. Que toute la gloire t'en revienne au siècle des siècles. Amen.